Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Germain, comme invité cette semaine, on a Benoît Lavigne qui est un passionné de Dodge Challenger. Et pourquoi on voulait parler à Benoît? Parce qu'on fête cette année deux fois plus tôt qu'une. Les 50 ans de la Dodge Challenger. Alors, m'a partir l'entrevue.
Oh! Hein? Ça, c'est pas pire.
Bravo. Bravo, merci. Je savais que tu l'aimerais, celle-là. Oui. Ben, salut Benoît. Merci d'être avec nous.
Merci d'être là.
Oui, bonjour Antoine. Bonjour Germain.
Donc, pour la petite histoire, Benoît possède une Challenger lui-même, a possédé plusieurs autres voitures et véhicules de la famille Mopar, mais on va revenir à la fin de l'entrevue sur sa voiture spécifique. Mais, comme Antoine le mentionnait, cette année, le Challenger fête son 50e anniversaire. On a dévoilé une première édition spéciale l'automne passé qui était cuivrée. Et dans les dernières semaines, on a dévoilé une deuxième édition spéciale pour le 50e toujours. Elle est grise.
50e anniversaire. Mais évidemment, il y a bien des années où il n'y a pas eu de Dodge Challenger.
C'est pas comme la Mustang ou la Corvette, ben, sauf 83, où on a un fil continu. Là. Mais bref, est-ce que tu es capable, Benoît, de nous remettre en contexte de la sortie originale du Challenger en 70?
Oui, ben en 70, en fait, Dodge, la création en général, était un petit peu à la recherche d'une voiture pour compétitionner avec la Mustang qui était déjà sur le marché depuis quelques années. Plymouth avait essayé avec la Barracuda là, à peu près même quelques semaines avant la Mustang en 64, mais la voiture avait vraiment pas autant de charme que la Mustang et puis a pas connu beaucoup de succès à ce moment-là. Donc,
Il y avait le duo Camaro Firebird qui est arrivé en 67 aussi.
C'est ça, en 67 aussi. Donc ça, à la fin 66, effectivement, pour l'année 67. Donc ça a vraiment tombé dans les reins un petit peu de Chrysler qui, en fait, avait juste la Barracuda qui était basée sur le châssis A, là, qui était pas vraiment sportive, malgré qu'on y mettait des gros moteurs rendus là. Et puis Dodge avait la Dart, qui était vraiment un peu trop juste un sedan carré, là, qui avait pas vraiment d'aspect sportif, malgré toutes les bandes de stripes et puis tout ça qu'on rajoutait, les modèles swingers, tout ça.
Oui, disons que ça swingait beaucoup.
Oui, ça restait une voiture.
C'est ça, il y avait des très bonnes mécaniques. C'est-à-dire, il y avait le 340 qui était à ce moment-là, qui était un des meilleurs small blocks qui était disponible sur le marché, les 383, Roadrunner, les Magnum, 440, même le Hemi, tout ça était disponible à ce moment-là. Mais,
je trouve ça intéressant d'ailleurs. Je me permets de te couper pour mentionner aux jeunes que oui, un 340 pouces cubes, on appelait ça un small block à une certaine époque.
Oui.
C'était un petit moteur.
parce que tout est relatif.
C'est ça.
Donc, tout est relatif, c'est ça.
Donc à ce moment-là, Dodge s'est dit, ben, au lieu de continuer à tout simplement couper deux portes à une voiture compacte qui était la Dart, oui, on voulait arriver avec un modèle qui se voulait à la base sportif.
Comme on dit à l'époque, longer, lower, wider. Donc, plus long, plus bas et plus large. Donc, on a pris en fait la carrosserie ou le châssis du B, qui était les Roadrunner, qui était le mid-size. Aujourd'hui, c'est considéré comme une limousine quasiment, mais à ce moment-là, c'était un mid-size. Et puis, on a coupé un petit peu sur l'empattement et puis on a mis une carrosserie deux portes plus sportive. Chez Plymouth, ça a donné la Barracuda ou la Cuda, qui était la version sport. Et chez Challenger, on avait un empattement qui était 2 pouces plus long pour avoir quelque chose d'un petit peu plus luxueux, parce que la division Dodge était toujours un petit peu plus luxueuse que la division Plymouth. Donc, on avait la Challenger qui offrait, à ce moment-là, étant donné qu'il était basé sur le modèle B, là, qui pouvait offrir toute la gamme de moteurs là, à partir du vénérable Méo penché, là, 6 cylindres, jusqu'au 426,5.
Puis là, donc, évidemment, contrairement à une Camaro, c'était un châssis complet, ça, là.
Oui, effectivement. En fait, il y a un sous-châssis à l'avant, on appelle un K-member, là,
ouais,
auquel se rattache la suspension avant et toute la mécanique. Et puis, pour le reste, c'est un monocoque, vraiment une voiture monocoque là, qui était utilisée.
Okay.
Donc, ça permettait d'avoir justement quelque chose qui avait beaucoup plus de rigidité. Et puis qui était plus un peu plus confortable aussi.
J'ai une question pour toi avec une sous-question.
Vas-y.
Le Challenger de première génération, bon, l'aventure s'est terminée en 1974. Premièrement, pourquoi?
Oui.
Et deuxièmement, c'est quoi les versions les plus prisées 50 ans plus tard de cette génération-là du Challenger?
C'est pas une 74.
C'est pas une 74.
Non, ça c'est sûr.
Ben, c'est drôle à dire, hein, mais la 74, c'est l'année où il y a eu le moins de production. En fait, ils ont arrêté la production au mois de janvier ou février. De 1974, ils ont même pas fait l'année modèle au complet. Donc, si on fait la nomenclature de toutes les différentes années, là, c'est vraiment la 74 qui est la plus rare. De là à dire la plus désirable, ben là, comme
ouais,
on
c'est
comme
ça. Il y a un
Antoine
jeu,
le sait, souvent, c'est pas la rareté qui fait la désirabilité du modèle. Là. Donc, les modèles les plus prisés, ben évidemment, c'est la 70 qui était la première année. Le design est plus pur, la grille est plus simple. En tout cas, moi, c'est ma préférée. Il y a certaines personnes qui préfèrent le style de la 71 où on avait un petit peu rajouté un petit peu plus fardé, là, une grille séparée en deux, des prises d'air fausses là, sur les ailes arrière et puis tout ça. Là, un peu comme la Cuda aussi. Là. La Cuda 70 est plus pure et puis la 71 est plus...
Un
peu plus chargé, c'est ça.
Maintenant, évidemment, on a vu des Challenger et des Cuda, parce qu'on peut quand même mentionner que c'est pas mal la même voiture. Là.
Oui,
c'est ça.
On a vu des voitures avec des 426 MI match number dans des conditions incroyables se vendre à des prix qui dépassent l'imagination. Est-ce que tu penses que cette période-là est passée ou est-ce que tu penses que ça va continuer à monter?
Écoute, il y aura toujours les gens disent souvent le marché va descendre à mesure que les baby boomers, les gens qui tripaient sur ces voitures-là quand elles étaient neuves, vont décéder. Mais on disait la même chose des Tri-Five de Chevrolet, les Chevrolet des années 55 à 57.
Ouais.
Oui, effectivement, le marché pour la voiture ordinaire a descendu, mais les meilleurs exemples, les plus beaux, les plus équipés, les plus rares, eux vont toujours conserver une bonne valeur. Il va toujours avoir un bon nombre de collectionneurs qui vont être prêts à payer le prix pour ça.
Puis,
on parle de voitures rares. On peut considérer que le muscle car le plus rare et le plus dispendieux qui existe sur le marché, c'est la Barracuda décapotable Hemi. Ils en ont produit 12 en 70, ils en ont produit 18 en 71. Puis il y a le Challenger Hemi décapotable aussi. Ça aussi, ils en ont produit 12 en 1970 seulement. Il n'y a pas eu de Hemi décapotable en 71. Donc, ça demeure des voitures qui valent au mieux, au pire, 2,5 millions en état restauré jusqu'à 3,5 millions pour un certain Barracuda décapotable.
Mais on s'entend que ça n'a aucun bon sens.
Le marché peut... il y a peut-être 50 personnes, 50 collectionneurs à travers le monde qui sont en mesure de s'acheter une de ces voitures-là. Puis il y en a 50 disponibles. La production, sur les 52 qui ont été produites, il y en a deux seulement qui ont disparu.
Mais est-ce que c'est une période qui est éphémère ou est-ce que tu crois que ça va continuer de monter? Parce qu'on sait qu'une Ferrari...
Parce que ça fait un moment là, que ça coûte cher, là, un Challenger Hemi.
Ouais. Mais tu sais, c'est probablement... C'est encore plus... Tu sais, parce que ces voitures-là coûtaient à l'époque, quoi? 7-8 000 piastres?
Oh, moins que ça?
Même pas. 3 500, 4 000. Là.
Avec un Hemi décapotable?
Alors, pas avec un Hemi. Non, un Hemi décapotable, là, tu frisais probablement les 5 500, 6 000, dépendamment de l'expérience.
Bon.
Parce que tu pouvais avoir des modèles très dépouillés et tu pouvais acheter des milliers de dollars d'options là-dessus. Là.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est sûr que mais ça variait, mettons, entre 4 500 et 5 500 à peu près.
Fait qu'imagine-toi, on s'entend que c'est un placement assez intéressant pour le gars qui l'a conservé, ce qui n'est probablement jamais arrivé. Là. Mais en pourcentage, c'est encore un meilleur investissement que le gars qui s'est acheté une Ferrari dans les années 60 puis qui l'a aujourd'hui puis que la voiture vaut 20 millions. Parce que au prorata, il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Puis là, tu regardes ça puis tu dis...
Parce que c'était une voiture presque ordinaire.
Souvent, on a cette conversation-là où on dit « Ah, j'aurais dû garder ma voiture que j'ai achetée un Chevrolet ou j'aurais dû acheter un Cuda Hemi en 71 puis le garder. »
Oui, sauf que si tout le monde avait fait, ça vaudrait rien.
Si tu regardes le rendement... Ben, il y aurait ça, mais si tu regardes simplement le rendement en bourse, si tu avais tout simplement placé cet argent-là à la bourse avec des placements,
si tu avais placé 6 000,
t'aurais plus d'argent.
Si tu avais placé 6 000 $ en bourse en 70, tu serais probablement millionnaire aujourd'hui. Là.
C'est ça, mais t'aurais pas le plaisir de conduire ton investissement.
Non, voilà.
Parce que je disais, j'ai justement un voisin ici dans mon coin qui, lui, a fait ça. Il a acheté un Cuda Hemi 71 Et puis, il possède toujours la peinture originale dessus, de la mécanique originale. Et puis, il n'y a aucune intention de la vendre de son vivant. Là.
Ah, parce que je m'en ai dit, dis-y que j'y donne 2-3 000.
Oui, c'est ça.
Ouais, non, il a refusé pas mal plus que ça.
Oui, j'imagine. J'imagine.
Si on clôt le sujet.
Il y a des gens qui les ont conservés.
Si on clôt le sujet de la première génération, est-ce qu'on peut dire que c'était un succès pour Dodge, même si ça n'a pas été très, très long?
Non, mais le problème, c'est qu'il y a eu d'énormes problèmes de qualité d'assemblage dans la première année. La première année a été bonne, autant pour la CUDA que le Challenger, mais là, on parle surtout de Challenger. C'est un nouveau modèle, ils ont fait un énorme blitz de publicité, rien comparable à la Mustang, mais je veux dire, il y avait beaucoup de publicité, tout ça. La voiture est neuve, elle avait un look vraiment moderne avec les essuie-glaces cachés. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais dans ce temps-là, c'était vraiment, tu sais, de pas voir les essuie-glaces qui étaient en dessous du capot, c'était vraiment... quelque chose de nouveau à cette époque-là. Puis, en tout cas, il y a eu un gros blitz, tout ça. La première année, ça s'est très bien vendu. Sauf que, malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes de qualité avec les différentes composantes, tout ça, à l'intérieur.
Et là, c'est un adepte du modèle qui admet qu'il y avait des problèmes de qualité, là, hein? Quand même.
Oui, comme beaucoup de modèles au début des années 70. Écoute, la fiabilité était pas... Chrysler était reconnu pour sa qualité d'ingénierie. Donc, la qualité des moteurs, la qualité de l'ingénierie, tout ça. Mais au niveau de l'assemblage, là, malheureusement, c'était pas les gros chars.
C'était tellement incroyable que tu pouvais choisir deux voitures qui sortaient de la ligne d'assemblage une après l'autre, puis tu conduisais pas le même véhicule. C'était non, à ce point-là.
Non, c'est ça. Fait que malheureusement, ça les a rattrapés assez rapidement, puis les ventes ont chuté de moitié. De 50 quelques mille exemplaires la première année à 25 000 l'année suivante.
Et c'était rendu un challenge de les vendre.
Oh, mon Dieu.
Je suis en forme.
Deux jeux de mots.
Je suis en forme.
Voilà. Bon, 74, bon, on connaît le contexte. Crise du pétrole, oui. C'est loin d'être la joie. Là, on a un creux et on revient avec la Challenger en 78. Mais là, c'est plus une Challenger comme on la connaissait, là.
Non, malheureusement. Ça, c'était probablement un faux pas de la part de Chrysler d'avoir appelé ce modèle-là, tout ça. Mais je veux dire, il essayait justement de ramener un petit peu d'héritage de la marque pour pouvoir mousser un nouveau modèle qui
avait... Mais est-ce que c'était un héritage de ramener le nom Challenger alors que le nom avait quoi, 7-8 ans seulement? Tu sais, c'est ça qui est curieux. Puis là, faut quand même mentionner.
Il y a tellement une grosse différence d'époque entre le milieu des années 70 puis le milieu des années 80. Je veux dire, si on regarde l'évolution dans l'automobile, il y a eu beaucoup plus d'évolution dans ces 10 années-là que dans les 30 années précédentes.
Faut mentionner aux gens qu'une Challenger 78 à 82-3, c'était
un Mitsubishi Galant, un Plymouth Sapporo. Ouais. Ça avait rien d'un muscle car, absolument.
Ça avait 100
pas.
Chevaux puis ça avait un 4 cylindres de 2.6 litres.
C'est comme si Chrysler avait sorti en 2008 ou 2009 ou 2010 une version intrépide du 300 ou quelque chose comme ça. Là. Ben, de ramener un nom si peu ancien.
Je me permets de te dire que Chrysler a ressorti la Dart
sur
une plateforme d'Alfa Romeo Giulietta, puis ça a été un succès, ça aussi.
Oui, un autre grand succès, puis on en parlera quand ça fera 50 ans, mais pas, ça, avant. Pas avant. Donc,
encore une fois, les problèmes de qualité qui ont tué un modèle.
Oui, exactement.
Donc, ça n'a pas été un grand succès pour la deuxième génération. Là, ensuite, en 2008... Là, c'est le grand retour de la Challenger. Oui. Raconte-nous un peu, c'était quoi le contexte? Replace-nous à l'époque. Là.
Ben, effectivement, rendu en 2006, ça faisait déjà une couple d'années que la plateforme LX, les Chargers, les 300, la Dodge Magnum, était en production. Une plateforme qui avait été empruntée à Mercedes là, à l'époque où Daimler était en train de prendre tout le jus de Chrysler.
On l'emprunte toujours d'ailleurs cette plateforme-là, puis je suis même pas sûr que Mercedes s'en souvient.
Ouais. Donc, on avait une bonne plateforme quand même, avec une propulsion. Ça, c'est important aussi d'avoir quelque chose qui était à propulsion. Il n'y avait pas encore grand-chose sur le marché. La Mustang était un petit peu vieillotte aussi. Là, elle commençait à être assise. Elle était quand même intéressante, là, mais... Donc, Chrysler voulait avoir quelque chose de compétitionné. Ils ont tout simplement sectionné la partie du centre de la plateforme LX, ils ont appelé ça une LC, et puis on a fait un modèle deux portes qu'on a appelé Challenger. Je pense que cette fois-là, étant donné qu'on offrait des moteurs V8, que c'était une plateforme à propulsion. C'était vraiment digne du nom Challenger. Là.
Et on avait eu le temps de s'en ennuyer aussi.
Oui, oui, là, effectivement. Puis on a vu un phénomène aussi en 2008, lorsque la voiture est sortie. Il y a énormément de gens qui ont acheté cette voiture-là puis qui ont vendu une vieille voiture pour pouvoir acheter ça. Parce qu'ils étaient comme tannés de travailler sur une vieille voiture, oui, de se brasser un petit peu.
Ils se retrouvaient dans une voiture neuve. Une voiture neuve, confortable, garantie.
Au look rétro.
Au look rétro.
C'était sans... vraiment celle qui avait le plus look rétro des trois, là, de la Camaro, Mustang. C'était vraiment celle
qui... Oui, la Camaro qui est arrivée deux ans plus tard. Camaro est arrivée deux ans après, donc en 2010. Ouais. Mais la Challenger était déjà sur la route. Moi, j'avais assisté à la présentation média de la Challenger 2008. Puis, écoute, c'était tout un tabac qu'on avait fait avec cette voiture-là. On avait des grandes aspirations. Mais tout de suite, on avait posé des questions par rapport... Bon, là, puis on pourra parler tout de suite après de la Challenger 500, parce que tu as une théorie intéressante là-dessus. Mais on avait, dès le départ, posé la question, pourquoi seulement un coupé? Pourquoi il n'y a pas de décapotable? Et ce que je trouve intéressant, c'est que 12, 13 ans plus tard, toujours pas de cabriolet de cette voiture-là.
Ouais, il y a des entreprises indépendantes qui vont faire des conversions. Mais ouais, ceci.
Il y a une compagnie qui s'appelle Drop Top Customs en Floride qui a fait le prototype pour Dodge en 2010, je crois.
Mais pourquoi il n'y a pas eu de cabriolet selon toi?
Ben, selon eux, c'est une question de marché, là, qu'il n'y avait pas assez de marché par rapport à tout ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2008-2010, la Challenger était vraiment beaucoup derrière la puis même une fois que la Camaro est sortie aussi pendant quelques années, la Challenger était vraiment derrière les deux, était vraiment la troisième dans les ventes. Depuis quelques années, la Challenger a dépassé la Camaro. Là, ça ferait un peu plus de sens. Mais là, par contre, on est rendu tellement loin dans la production, puis là, on sait que le modèle va seulement durer quelques années encore. Ça vaut peut-être pas la peine de réinvestir dans les lignes de production pour ajouter un modèle décapotable. Par contre, il y a beaucoup de concessionnaires américains qui prennent des modèles neufs, qui les envoient chez Drop Top en Floride et puis qui vendent ça à 20 000 $ de plus. Là. La conversion coûte 16 000 $ américains.
Ce qui n'a pas de bon sens.
Les concessionnaires le font faire.
Et c'est moyennement beau, là.
Non, ben c'est ça. C'est surtout que c'est pas... Si tu trouves pas que c'est... Tu sais, je veux dire, le marché de la Mustang aux États-Unis, il se vend deux coupés pour un cabriolet, là. Je veux dire, c'est un marché gigantesque, la décapotable, dans ce segment-là.
Surtout pour les voitures de location.
Ben oui. Puis en plus, Chrysler abandonnait, au début des années 2010, la 200.
Ouais.
Donc, ça aurait été, pour moi... Le moment idéal, même si tu le vends en V6, tu le vends pas en... Évidemment que tu fais pas une version L4 cabriolet, là, à un moment donné, il y a des limites. Mais, tu sais, de vendre une version V6 décapotable, je me dis, il aurait été capable d'aller chercher un marché avec ça et on l'a jamais fait. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, par exemple.
Oui,
maintenant, on va parler de la Challenger 500.
Oui, la 500, la théorie, les rumeurs, on veut tout savoir.
Donc, il faut mentionner d'abord aux gens que la Challenger 500, c'est les 500 premières Challenger qui ont été fabriquées. De mémoire, c'était orange ou noir? Il y avait deux couleurs seulement?
Silver
orange,
aussi.
Orange, noir ou silver.
Ou silver, OK, parfait.
Il y avait la silver aussi.
Donc, techniquement, il y en aurait eu 500.
Oui, puis même chaque voiture venait avec une plaque, avec un numéro, et puis même un certificat, le porte-clés, en tout cas, tout le Bataclan. Il y avait vraiment beaucoup de gadgets qui venaient avec ça. Par contre, c'est sûr, il y a eu des rumeurs que, bon, pourquoi est-ce que Chrysler se serait limité à 500? Il y en aurait eu plus que ça. En fait, je pense que c'était comme 3000 qu'il y avait eu aux États-Unis aussi, ou un peu plus que ça. Puis la même chose, là, les gens disaient, malgré qu'elles étaient numérotées, il y a eu des rumeurs que déjà, il y a deux personnes qui se sont trouvées avec le même numéro de séquence, et puis... Mais c'est ça, tu dis pourquoi est-ce que ce serait vraiment limité quand il y avait vraiment une folie en 2008. Là, il y a des concessionnaires qui allaient chercher des markups de 10, 15 000 $ par-dessus le prix de liste pour vendre ces voitures-là. Tu dis s'il y en avait eu un autre 150 de plus à vendre, d'après moi, ils ne seraient pas gênés pour les produire. Surtout que Chrysler, à ce moment-là, n'était pas nécessairement dans la meilleure santé financière.
Non, ça, on était dans un sérieux creux de vague. Puis pourtant, ces Challenger-là, c'était des SRT, un moteur 425 chevaux.
C'est tout des SRT8.
C'est ça.
Oui, c'est tout des SRT8.
Puis à l'époque, elles étaient toutes automatiques.
Oui, il n'y avait pas encore de ça. Il n'y avait pas encore la tension manuelle en 2008.
OK, bon, parce qu'on a une collègue journaliste, Jill McIntosh, pour ne pas la nommer, qui en possède une Challenger 500 orange.
Ah!
Puis elle en sort une couple de fois par année. Ça ne roule pas beaucoup, cette voiture. Enfin.
Il y en a eu probablement, je dirais, 10% qui ont été mis dans la Watt, qui ont été mis dans Boulamite en 2008 pour des gens qui pensaient faire la passe du siècle, comme des gens qui avaient acheté des Buick GNX.
ou des oui, Ford GT un petit peu.
Ben moi, je vous permets de. Je me
non,
permets
mais la
de
Ford vous... GT a apprécié.
Oui, c'est ça. C'était un meilleur bet.
Moi, je me permets de vous raconter une anecdote. Alors, j'ai un professeur de secondaire avec qui j'ai continué de parler après avoir fini mes études au secondaire.
T'as fini ton secondaire?
Oui, oui, okay. Je te jure. Puis en 1999...
Il a fini avec le secondaire.
Oui, c'est ça. En 1999, il s'est acheté un Chrysler PT Cruiser et il a serré ça dans un garage en pensant que ça allait prendre de la valeur, que ça allait devenir un collectible. Et pas une version... Un PT Cruiser Gold de milieu de gamme, le Touring ou je sais pas quoi.
Rien de particulier.
Rien de particulier. Puis il l'a serré pendant plusieurs années, puis après ça, il a vite compris que ça servait pas à grand chose.
Ben, c'est probablement le propriétaire de PT Cruiser qui a eu le moins de problèmes.
Oui, voilà. Ça se peut, effectivement.
On sait tous qu'il y a eu plein de versions pseudo-spéciales de la Challenger.
Est-ce qu'il y en a que
tu considères qu'ils pourraient être des modèles qui conserveraient leur valeur ou qui iraient même jusqu'à en prendre?
Ben, si on se fie à la Challenger 500 de 2008, on s'est vite rendu compte là, que c'était juste une voiture usagée. Puis que, écoute, elle a déprécié comme n'importe quelle autre voiture.
Ouais.
Je pense que les éditions spéciales, comme la Mopar 10 qu'il y a eu en 2010, qui était noire avec une bande rouge ou silver ou bleu, c'est des modèles qui sont intéressants, qui viennent souvent avec des extras, tout ça, puis qui vont peut-être être plus faciles à revendre parce qu'elles sont un peu plus distinctives. Mais de là à dire que ça va devenir un objet de collection, il n'y a pas vraiment beaucoup de voitures modernes, à part justement une Ford GT ou comme ça, qui peut aspirer à devenir une voiture de collection. C'est des voitures de grande production, là, puis qui, en plus de ça, sont difficiles à conserver à long terme, là, avec toute l'électronique. Tout ça.
Ben moi, le gag que je dis souvent, c'est que la Challenger, la plus rare, c'est une version de base V6,
oui.
Pas d'option. T'sais, ça.
Oui, parce que,
En 2005, quand ils ont sorti la L4, les gens sont garochés sur des L4. 2015, excuse-moi. Ça va être un modèle rare, tout ça. En fait, ils ont vendu plus de L4 que de Scat Pack, qui était le modèle avant. Ils ont vendu au-dessus de 7000 L4 sur 27000 Challenger. Donc, plus que le quart de la production de Challenger en 2015 était des L4. Donc, c'est sûr qu'une L4 2015, ça peut être intéressant à long terme si elle n'a pas bon millage et puis qu'elle garde en bon état, tout ça, puis une couleur intéressante. Par contre, il y en a tellement, c'est comme dit, 7000 juste la première année, ça ne deviendra pas une voiture de collection comme telle. Peut-être dans 30 ans, ça va être une voiture intéressante, comme aujourd'hui, un Reliant est une voiture intéressante, parce qu'elle est rare, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais c'est vintage, mais par contre, de là à dire que ça va devenir comme un Imi Cuda.
Et le problème aussi, c'est que ben, autant pour le Reliant que le Challenger 70, ben, c'est pas des véhicules que les gens conservaient dans la Watt à l'époque, alors que là, ben, justement, il y a beaucoup de ces Challengers-là, neufs ou presque, qui, eux, sont conservés.
Oui.
Donc, oui, même s'il y a un peu d'électronique, t'sais, si le véhicule sort peu et surtout sort pas l'hiver, ben ça va aider à le conserver.
Mais je trouve
10,
ça,
15, 20
c'est ça,
ans
c'est
et plus.
Pas, c'est vraiment pas difficile d'en trouver une bonne. Là. Quelqu'un qui veut absolument avoir un L4 2015, c'est pas difficile d'en trouver une qui a 10 000, 15 000 km. Là.
Mais au-delà des versions super performantes, L4, Démon, tout ce que tu voudras, Démon, ça c'est un autre domaine, ça va garder sa valeur.
Oui, parce qu'elle est très limitée.
Ça, c'est
elle
sûr.
Est très
ça, c'est, celle-là, il n'y a aucun problème.
Mais
ils ont vraiment limité la production, puis c'est documenté. Puis,
mais je trouve ça intéressant de comparer, par exemple, la valeur de revente d'un Charger, d'un 300, versus un Challenger, qui essentiellement est pas mal la même voiture. Un Chrysler 300 en usager, ça vaut rien. Un Dodge Challenger de 2010, ça a encore une très, très bonne valeur. Là, on peut parler facilement de 20 000 $ si on avait 8. Alors qu'un Chrysler 300 2010 avec un V8, quand tu as dépensé 4-5 000 pour ça, c'est beau. Là.
Ouais.
C'est incroyable de voir la différence.
Parce que justement, le Challenger a souvent été gardé en meilleur état, a souvent moins de kilométrage. La plupart du temps, c'est une voiture de juste la fin de semaine ou pour l'été ou ainsi de suite. Donc, c'est ce qui explique que souvent, ils vont être en meilleur état, donc ils vont aller chercher un meilleur vie. Mais effectivement, en pourcentage, le Challenger est comme voiture sport, comme voiture de AB. Va probablement justement valoir plus qu'une voiture, un ancien taxi comme un Charger ou un 300. Rien contre, là, parce que j'en ai eu plusieurs Chargers, tout ça.
Mais le côté collectible est aspect intéressant et moins là.
Si j'avais à miser sur une voiture de cette famille-là, moi je dirais un Magnum SRT8 a probablement plus de chances de devenir un collectible que
2008.
Un Challenger.
Oui, la 2008. Dernière année.
Oui. Ouais. La dernière année de production. C'est, d'ailleurs, c'est la Challenger qui a tué la Magnum. Les amateurs de Magnum sont un peu fâchés de ça, parce que quand ils ont commencé la production du Challenger, ben, il a fallu qu'ils coupent sur la production d'un autre modèle. Donc, c'est la Magnum qui a...
Qui est passé au bistouri, effectivement.
Puis après ça, fallait, si on voulait un véhicule familial, il fallait acheter un Journey, voilà. Donc, c'est qui n'était pas tout à fait le même véhicule. Benoît, en présentation, on a dit que tu avais, que tu as une Dodge Challenger 70 orange, mais qui n'est pas comme toutes les autres Challenger orange. je te laisse nous présenter ton petit bijou.
Oui, ben elle est spéciale, un peu comme son propriétaire. C'est mon deuxième Challenger Vintage. J'avais un 71 avant que j'ai en fait même donné en échange pour la 70. Là. C'est une voiture qui est spéciale parce que premièrement, elle a été vendue au Québec par un concessionnaire qui est maintenant fermé là à Tracy. Ça s'appelait Tracy Automobile. Donc la voiture a été vendue neuve au Québec et c'était un ce qu'on appelle un dealer démo, là, donc une voiture que le propriétaire avait commandée pour son usage personnel, puis okay. Pour un peu démontrer les options. Puis pour faire ça, effectivement, il a commandé la voiture avec 32 options séparées de compagnie, ce qui en fait là, la Challenger 70, d'après les experts, là, qui aurait le plus grand nombre d'options, pas nécessairement la plus grande valeur en options, mais le plus grand nombre d'options. Commander dessus.
Puis les options, donc, juste pour qu'on se replace à l'époque. Là,
16 cendriers.
Oui, c'est ça. Ça ressemble à quoi les options?
Cendrier électrique.
Comment?
Cendrier électrique. Non, écoute, ça va depuis le moteur 340. Il y avait ce qu'on appelle, c'était pas un RT, mais il y avait tout d'un RT parce qu'il y avait un 340 A66 Performance Package. Ça donnait le 340 et tout l'équipement du RT sans nécessairement avoir les emblèmes du RT. Donc, ça permettait d'avoir des meilleurs taux d'assurance. Il y a différentes choses de performance comme ça, le différentiel autobloquant, ce qu'on appelle short grip en Chrysler, là, et non pas posi. Par contre, ça vaut aussi des options comme le toit de vinyle, le siège à 6 ajustements, le volant Rimblow, radio AM/FM.
On disait à l'époque un toit en matériel. Un toit en matériel.
Ou en vénir.
jusqu'aux jalousies, là, les louvers de vitre arrière, ouais. Les spoilers. Les protèges rebords de portière chromés, ça aussi, ça fait des
OK, on est rendu à 31, là, je te dirais. sinon, tu disais qu'il a été acheté neuf au Québec, et toi, qui es un peu un passionné de la documentation d'un véhicule, t'as retracé le concessionnaire, la famille d'époque, voilà.
Oui, effectivement. Malheureusement, le propriétaire du concessionnaire, la bâtisse existe toujours. Et puis, elle appartient toujours à celui qui avait le concessionnaire, qui a fermé ses portes en 2001, là, lorsque Plymouth et sont fermés Plymouth. Mais bref, le type a juste mis la clé dans la porte du concessionnaire, puis il est parti. C'est sûr, il a loué la body shop à côté, mais le bureau est encore tel quel. Il y a encore toute la documentation des caravanes 2001 et puis tout ça dedans. Là. je vous promets d'aller explorer là-dedans. Mais bref, ce type-là, c'est un monsieur Danny. Il est décédé en début d'année. Et puis lorsque ses enfants ont passé au travers toutes ces choses là, pour trouver des photos d'époque, tout ça pour le signet mortuaire là, pour le salon, ils ont trouvé des photos qui avaient été prises en 70 devant le garage.
Avec ta voiture.
Et puis avec ma voiture stationnée devant le garage en 1970 quand elle était flambant neuve. Ça, c'est assez spécial. Puis c'est cette photo-là qui apparaît sur son signet. Le signe souvenir du salon mortuaire. C'est un peu morbide, là, mais quand même, j'ai pu récupérer les originaux de ces photos-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter justement de pouvoir documenter leur voiture là, jusqu'au premier jour chez le concessionnaire comme tel, là, avec des photos.
Vas-y, Benoît.
Oh, il y avait confusion, non, là. Il y avait confusion.
OK. Non, mais c'est parce qu'on se voit pas. Hein. Non, mais il y a une chose intéressante qui est amusante aussi avec la voiture, c'est que j'avais des photos aussi qui dataient de 72 du premier propriétaire. Puis on voyait que l'aileron arrière est installé à l'envers. Il pointait du mauvais côté. Fait qu'on se dit, ah, c'est probablement lui qui a essayé de faire un essai aérodynamique, tout ça. Mais sur les photos qui datent de 70, au moment où la voiture était neuve, on voit que l'aileron est installé à l'envers. Fait que probablement qu'il est arrivé de chez Chrysler avec l'aileron à l'envers comme ça.
Quand on parlait de la qualité d'assemblage tout à l'heure, ben, c'en est un bel exemple.
Méchant downforce. Ça devait donner un downforce particulier.
Fait que techniquement, si je veux le remettre complètement d'origine, il faudrait que je remette l'aileron à l'envers. Mais je refuse de le faire parce que je vais passer trop de temps à essayer d'expliquer pourquoi il est comme ça.
C'est fantastique. Merci, Benoît. Puis je te souhaite, évidemment, malgré le fait qu'on ne se croisera pas dans diverses expositions de voitures anciennes cet été, je te souhaite d'aller brûler du gaz.
Oui, effectivement. Il y avait tellement de choses organisées pour le 50e anniversaire du Challenger cette année, dont Carlisle en Pennsylvanie.
Ouais.
Et puis malheureusement, ben, on ne pourra pas y aller cette année. Donc on se promettait beaucoup de sorties et tout ça, mais on va rouler à la place.
Voilà. Parfait, ça. Bonne route, Benoît. Merci.
Merci. Bye-bye.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.